France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio aura lieu ce soir en France et on reçoit pour évoquer cette actualité un écrivain que vous n'attendiez peut-être pas dans ce rôle-là, parce que oui, le sport et la littérature, ça marche, hein, on le sait depuis Monterland, même peut-être depuis Albert Londres et ses forçats de la route. Camus était fan de foot et plus proche de nous, Jean Echenoz a publié il y a quelques années une biographie romancée d'Émile Zatopek, Courir. On peut encore citer le relativement récent recueil de nouvelles de Tristan Garcia en l'absence de classement final. Et ce matin, à la croisée entre la fiction et la réalité, nous recevons Philippe Jaénada. Bonjour.
Bonjour Benoît.
Et merci d'être avec nous. Auteur d'un livre paru au printemps qui se révèle être un très bon ouvrage à la fois instructif et rafraîchissant sur l'histoire des Jeux Olympiques, intitulé Spyridon Superstar. Il est paru dans la nouvelle collection Incipit des éditions Prisma. Un livre qui fait de vous, Philippe Jaénada, même si on ne vous attendait pas sur cette thématique, l'homme qu'on a envie d'entendre sur les JO, celui qui pourra prendre peut-être un peu de distance avec l'événement tout en nous parlant avec passion, on l'espère, de cette matière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Philippe Jaénada, une matière tout à fait romanesque qu'est le sport de compétition.
Oui, je m'en suis d'ailleurs rendu compte en écrivant, parce que je vous avoue que, bon, ça ne se voit pas vraiment à la radio, mais je suis physiquement l'incarnation du sport, mais j'ai quand même été étonné quand on m'a proposé, c'est une proposition qu'on m'a faite, hein, d'écrire sur ces premiers Jeux Olympiques. Et dès que j'ai commencé à me renseigner, à creuser, à fouiller un petit peu, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était une matière formidable, humaine quoi. C'est vraiment le sport, c'est en dehors évidemment de tous les records, les compétitions, etc. Enfin même la compétition d'ailleurs, c'est vraiment un des domaines où l'être humain, enfin voit peu de compétition entre les chameaux, entre les castors, alors que l'être humain c'est vraiment il y a tout quoi. C'est tragique, c'est beau, c'est émouvant, c'est il y a de la force et de la souplesse, enfin tout ce qu'il faut pour un romancier.
On va dire, pour continuer deux secondes sur votre physique, que vous avez peut-être une approche un peu churchillienne du sport,
oui,
Philippe Jaénada.
Oui, exactement. C'est-à-dire que le mot sport, que j'arrive à prononcer quand même assez aisément, oui, c'est un mot qui me glace le sang.
Et quand vous dites no sport, par exemple, ça marche aussi?
No sport.
Le sport, c'est une chose sérieuse, hein, Philippe Jaénada, mais c'est aussi une matière avec laquelle on peut se marrer, et vous ne vous en privez pas dans ce livre, en mêlant, comme vous le faites d'ailleurs assez souvent, et même très souvent, et même toujours dans vos livres, des faits avérés tirés de la grande histoire à des éléments un peu plus romancés. Votre propos, au long de ces 167 pages, et encore c'est écrit gros,
hein. Oui,
c'est des petites pages,
ouais.
Et c'est écrit gros, ça se lit vite. Votre propos, c'est de raconter les conditions dans lesquelles se sont préparés et déroulés les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne. C'était en 1896 à Athènes.
Oui. Le Coubertin a commencé à en parler vers 1892. Il a eu bien du mal à convaincre les gens, les autorités politiques, sportives, la presse.
Il s'est démené pourtant.
Il s'est beaucoup démené. Au début, on se moquait vraiment de lui parce que quand il a, en 92 à la Sorbonne, il a lancé l'idée de refaire les Jeux Olympiques, de recréer les Jeux Olympiques. Les gens pensaient qu'il voulait des athlètes nus, un sacrifice de bœufs au début des compétitions. Enfin, tout le monde se moquait de lui quand on prenait pour un fou, hein, ouais, une hécatombe. Et puis petit à petit, il a insisté, il a trouvé quelques méthodes pour faire ce qu'on n'appelait pas à l'époque évidemment le buzz. Mais il a réussi à intéresser les gens, à émouvoir les gens, et puis surtout il a eu les bons appuis politiques, il s'est rapproché de la famille royale grecque. Et voilà, petit à petit, en 95, finalement, ça a été décidé, et un an plus tard, c'était parti.
Oui, tout ça, c'est une histoire passionnante. Il a manœuvré, hein, Pierre de Coubertin, vous l'expliquez dans le livre, il a un peu magouillé en changeant des intitulés de colloques sur l'organisation de grandes compétitions sportives, notamment.
C'est-à-dire qu'il y avait un colloque, une conférence à la Sorbonne qui était sur le sport français, la place du sport dans la société. Il a rebaptisé au dernier moment conférence pour le rétablissement des Jeux Olympiques, la veille. Et puis... on venait de retrouver à Athènes, ou en tout cas en Grèce, les paroles de l'hymne à Apollon dans des fouilles. Il a eu une bonne idée publicitaire. Il a demandé à un petit jeune qui commençait à être en vogue, qui s'appelait Gabriel Fauré, de faire de la musique. Et puis, avec les chœurs de l'Opéra de Paris, une harpiste, etc. Il a fait jouer ça devant tous les spectateurs à la Sorbonne, et tout le monde a été ému, bouleversé. Et puis hop,
et ça a marché, quoi. Le coup a marché. Ouais. On va revenir sur Pierre de Coubertin, dont vous... parlait assez longuement dans le livre, et dont on se rend compte que peut-être son esprit n'est pas celui qu'on croit qu'il était aujourd'hui. On voit en tout cas très bien en vous lisant, Philippe Jaénada, qu'un grand événement sportif, et notamment les Jeux Olympiques, c'est un carrefour où, vous le disiez tout à l'heure, hein, la tragédie, le destin des hommes, la diplomatie, l'argent, les mythologies, y compris les mythologies nationales, se croisent, ce qui en fait bien, on est d'accord, un rendez-vous d'écrivain, un rendez-vous pour les écrivains.
Moi, je me suis vraiment... on m'avait demandé d'écrire une quarantaine de pages, j'en ai écrit 100, là c'est 167 parce que c'est petit, mais ça fait une centaine de pages normales, parce que vraiment, je me suis laissé emporter, c'est-à-dire j'ai découvert... D'un point de vue assez anecdotique, il y a plein de petites histoires dans ces Jeux Olympiques de 96 qui étaient vraiment, je pense, les premiers et les derniers Jeux vraiment amateurs. Il y a plein d'anecdotes marrantes ou touchantes. Bon, et puis même, oui, d'un point de vue plus général, Coubertin, par exemple, c'est un personnage qui est aujourd'hui complètement auréolé, pur, mais qui était, qui avait quand même quelques petits défauts. Hein. Donc voilà, moi ça m'a passionné, c'est une bonne matière à travailler.
Oui, une matière à laquelle, on l'a dit, bien d'autres se sont collés. On va y revenir avec vous, Philippe Jaénada, invité dans les Matins d'été aujourd'hui.
Sur le ring, le boxeur inquiet se tient aux aguets, prend garde au crochet. Il esquive des pings, des coches, des directs du droit, du gauche. Attaquant les joueurs de balle, rembouquant au val, descend en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo. Et voici les escrimeurs et les nageurs, les basketteurs. Par milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques. Le sauteur qui prend son élan frissonne un instant et hop se détend. Sa nouvelle performance bat tous les records de France. Les coureurs mouvant peloton défilent et s'en vont par monts et vallons. Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur. Joyeux effort, ivre d'effort, chantons vive le sport.
Philippe Jaénada est notre invité dans Les Matins d'été, auteur de Spiridon, superstar dans la collection Incipit, à lire si vous le souhaitez cet été, pour avoir des choses à dire un peu intelligentes en société, un peu étonnantes, surprenantes aussi, sur l'histoire des Jeux Olympiques. Vous saurez à peu près tout, notamment sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves de lancer de disques à Athènes en 1896, ce qui peut impressionner son monde, hein, Philippe Jaénada. Tout est vrai dans ce que vous racontez dans ce livre, Spiridon, superstar, même les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces épreuves. On a ce cas de Robert Garrett, je crois, qui est lanceur de poids et qui, en visitant le stade olympique un matin, trouve un disque par terre et se dit « Tiens, bah, je vais m'inscrire l'après-midi même à la compétition.
Ouais, » Et
puis il va gagner en plus.
Ouais, en fait, le disque n'était pas pratiqué à l'époque. C'est une des deux épreuves qui a été... Enfin, non, parce que le marathon carrément a été inventé pour l'occasion, pour justement pour attirer la presse, pour faire un peu sensation. Et le disque a été remis au programme, puisqu'évidemment on avait gardé cette statue du discobol qui datait de belle lurette. Et donc les Grecs voulaient absolument remporter cette épreuve, c'était une histoire de fierté nationale. La statue du discobol symbolisait l'histoire sportive et l'histoire tout court de la Grèce.
Ils s'inspiraient des statues justement.
Oui, ils ont carrément calqué leur mouvement sur celui de la statue, qui est d'ailleurs tellement bien faite qu'on peut presque imaginer quelle est la suite du mouvement. Ils se sont entraînés pendant des mois et des mois, ils étaient les seuls à s'être inscrits au concours, donc ils étaient sûrs de gagner. Et le matin de l'épreuve, les Américains, c'était le premier jour, les Américains viennent dans le stade pour sentir un peu l'atmosphère. Les Américains étaient déjà en 1896 bien en avance sur tout le monde. Et il y a un lanceur de poids, Garrett, Robert Garrett, qui trouve par terre une espèce de poids aplati, qui se demande ce que c'est. Et Bréché, on l'avait laissé là parce qu'il était cassé. Et il se dit, tiens, c'est rigolo ce truc-là. Il essaye de le lancer, il dit, bon, bah, ça se lance un peu comme un poids, mais bon, c'est plat. Et il s'est inscrit à la compétition, et 3 heures plus tard, évidemment, il a battu les Grecs surentraînés et surmusclés.
Et drame, évidemment, en Grèce. La Grèce, évidemment, était pleine de ferveur pour ces Jeux Olympiques. On va y revenir. Il y a aussi cette histoire du nageur américain aussi qui fait plus de 7000 kilomètres à ses frais par ses propres moyens pour venir participer à l'épreuve de nage, de natation.
Ça, c'est bien triste. Enfin, c'est un peu de
sa faute. Dans l'eau froide et puis.
C'est-à-dire que c'est un des seuls Américains à être venu par ses propres moyens parce qu'ils étaient tous bien organisés, venus ensemble. Lui, il ne devait pas être sélectionné, j'imagine. Il se met parce que les compétitions se déroulaient en mer. Il n'y avait plus assez d'argent pour construire une piscine, donc ça se faisait en mer. On emmenait les nageurs sur une sorte de plot à 100 mètres du bord et puis ils devaient revenir. Il a plongé avec tous les autres, on a vu sa tête ressortir, il a dit « Jesus, I'm freezing !» Et il est remonté sur le plot, voilà. Donc il aura fait trempette pendant une seconde et demie, 7000 kilomètres, 14000 même aller-retour.
Oui, c'est ça, c'était fini pour lui. Il y a plein d'anecdotes comme ça pour à l'occasion de ces premiers Jeux Olympiques. Philippe Giannata, c'est un peu les pieds nickelés font du sport en Grèce, certains.
C'est exactement ça, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces Jeux, parce que vraiment, dès les suivants, dès 1900-1904, l'argent ou la publicité ou les tricheries sont apparues. Donc c'était vraiment les premiers jeux. Il y a des gens qui s'étaient inscrits à la compétition de tennis, par exemple, c'était assez récent, le tennis. On appelait ça le lawn tennis, par rapport au vrai tennis qui était le jeu de paume, et qui n'avaient jamais touché une raquette de leur vie.
Ça donne un peu l'impression d'une organisation à la dernière minute. Il y a aussi tout ce rapport à l'alcool de pas mal d'athlètes. Vous en parlez assez souvent, Philippe Giannata.
Ouais, parce que bon, il y avait pas
soigné à Louzo.
Ouais, il y a le.
Mais vous dites même que le champagne aide à avoir une bonne condition physique.
Oui, quand les Américains ont refusé de boire un verre la veille des compétitions, les Grecs et les autres délégations étaient sidérés, disant mais qu'ils se prennent au sérieux, d'accord, mais enfin il y a des limites. On n'a jamais vu que le champagne était mauvais pour le sport. Il y a un Australien qui avait été malade parce qu'il est venu en bateau, il avait eu le mal de mer, il est arrivé sur les rotules, le vieil aubergiste grec lui a proposé de l'ouzo, l'Australien a trouvé que c'était bon, trois heures plus tard, il trouvait même que c'était le meilleur médicament du monde, il était en pleine forme, seulement le lendemain matin, c'était un petit peu plus difficile.
Ce qui est drôle, Philippe Giannata, c'est la place de l'alcool quand même dans votre littérature, alors on sait que vous aimez le
dans
le
ma whisky. Vie, ouais, vous
dans le whisky, mais même dans La Petite Femelle, par exemple, vous racontez comment vous êtes ouvert le crâne lors d'une cérémonie de remise des prix du prix de Flore. On sait que vous aimez le whisky, je l'ai dit, et c'est dans... Et alors, ça permet quoi l'alcool, Philippe Giannata, pour un écrivain, de raconter
Je crois que vous allez me demander dans la vie en général. Mais non. Pour un écrivain, c'est bien, c'est-à-dire que c'est un moteur pour les personnages. Ça permet. J'ai écrit un livre avant, le troisième, l'avant-dernier, quoi. C'est un personnage qui fait un peu n'importe quoi, qui est un personnage assez timide et renfermé, genre moi, un peu. Et avec l'alcool, ça permet au romancier de l'envoyer dans des aventures incroyables, parce que... justement, il est complètement désinhibé. Donc moi, en général, je m'en sers. Bon, là, en l'occurrence, dans Spiridon, c'est pas une invention du tout. Ce sont des choses que j'ai trouvées dans les livres, dans les documents que j'ai consultés. Mais sinon, moi, dans mes romans à moi, déjà, c'est souvent vrai. Hein, c'est souvent, j'invente rien. La sinistre histoire du prix de Flore, évidemment, c'est du reportage.
Oui, c'est ça. Dans les autres romans, c'est l'alcool qui est presque un sport pour vous.
Oui, c'est ça, qui est un sport et qui est en tout cas un moteur, un carburant pour que mes personnages fassent des choses qu'ils n'oseraient pas faire. Parce que un livre où le personnage reste coincé, introverti, renfermé chez lui pendant tout le... Il y en a quelques-uns qui ont fait ça, de mes glorieux ancêtres, mais sinon c'est moins marrant. Donc pour que mes personnages bougent un peu, un petit verre et hop.
Alors il va falloir qu'on parle quand même de ce Spiridon qui donne le titre à ce livre, Spiridon Superstar. Il s'agit de Spiridon Louis qui est l'athlète arrivé là un peu par hasard. Ça aussi c'est un peu une constante chez les héros dans vos livres. Philippe Giannata, il arrive un peu là par hasard, il est inscrit à l'épreuve du marathon, premier marathon de l'histoire évidemment des Jeux Olympiques, puisque l'épreuve, vous l'avez dit, a été inventée pour cette première édition. Et puis il va la gagner, cette épreuve du marathon. Vous racontez d'ailleurs la course de manière tout à fait romanesque à la fin du livre. Ce Spiridon, il vous a touché, il vous a ému, et il y a une certaine empathie, on sent ça dans votre écriture, vis-à-vis de cet homme tout à fait modeste, brave homme, grec.
Qui vend de l'eau.
Qui vend de l'eau.
Entre Maroussi et Athènes. Pour voir en vendant de l'eau, il faut se lever tôt, je veux dire. Comme aujourd'hui. Oui, il m'a touché. En fait, je cherchais, j'avais toute la matière pour raconter vraiment les jeux. Il me manquait plus qu'un personnage central. J'avais besoin, c'est le côté un peu romanesque du livre, hein. J'avais besoin d'un personnage à suivre. Il y en avait plusieurs dans ces Jeux Olympiques. J'ai pensé à Robert Garrett, dont on parlait tout à l'heure, qui a battu les Grecs. Il y a aussi un Américain qui était le premier à se mettre, pas à quatre pattes, mais je sais pas comment on appelle cette position au départ
dans
du 100 mètres.
Dans
les starting blocks, les mains par terre, les autres qui étaient debout le regardaient, mais ils se disaient, mais ce pauvre...
Et qui le regardait de haut, qui le toisait.
Ah oui, qui disait, il a complètement perdu la boule. Bon bref, il y avait plusieurs personnages. Spiridon Louis, c'est celui qui m'a semblé le plus, si ce n'est romantique, en tout cas romanesque, oui. C'est-à-dire que c'était vraiment, vous dites, il est arrivé un peu par hasard, il est arrivé complètement par hasard. C'est-à-dire qu'il voulait, il n'a jamais fait de sport de sa vie. Ça, c'est apporté à son crédit, bravo. Et en fait, c'est au service militaire. Il a fait son service militaire l'année qui a précédé les Jeux Olympiques. Et son colonel, le colonel Papa Diamantopoulos, a remarqué qu'il courait vite parce qu'un jour il est allé lui chercher ses lunettes qui étaient chez lui à 20 km, il a mis moins de 2 heures. Et il se trouve que ce colonel était chargé d'organiser un peu le marathon l'année suivante. Donc il a proposé, presque ordonné, à son jeune poulain de participer. Et Spiridon Louis, qui n'avait jamais enfilé un maillot de sport, qui n'avait jamais vu un stade de sa vie, s'est engagé, je pense, pour faire plaisir ou pour obéir. Et puis il a gagné. Il a gagné pour des raisons toutes bêtes, c'est que... Donc il vendait de l'eau, effectivement. Il allait tous les 2 jours à Athènes avec un vieux cheval, une vieille charrette remplie de bonbonnes d'eau, de jarres d'eau, et lui courait à côté pour pas fatiguer le cheval. Donc il avait une bonne résistance. Et ce qui s'est passé pendant ce marathon, c'est que il y avait des athlètes contre lui, il y avait de vrais athlètes.
Oui, il a gagné à la régulière. Hein.
Il a gagné à la régulière. Il y avait le champion, il y avait le meilleur Australien, le meilleur Français, le meilleur Anglais, le meilleur Américain. Enfin, il y avait vraiment des... Sauf qu'à l'époque, on ne courait jamais plus que 5000 mètres. C'était le maximum dans les compétitions d'athlétisme. Et ces couillons d'Américains, d'Anglais, d'Australiens n'ont pas réfléchi que 40 km, ça fait quand même un peu 8 fois 5000 mètres. Ils sont partis comme des dingues. Et alors que lui est parti calmement, mais il a suivi le même rythme du début à la fin. Et il les a ramassés sur le bord de la route. Ils tombaient les uns après les autres comme des mouches. Et lui a fini par gagner largement.
C'est lui dont vous vous servez pour donner la tension dramatique à ce livre. On n'aurait pas pu imaginer que Pierre de Coubertin aurait pu faire office de héros, Philippe Jaénada.
Oui, peut-être. Mais alors, d'une part, c'est un personnage...
Qui vous a déçu.
Oui, que j'ai découvert en faisant les recherches. Mais c'est vrai que, voilà, il est bien là. On a un buste en marbre de Pierre de Coubertin. Puis quand on creuse un peu, comme souvent d'ailleurs, hein, j'imagine que si on creuse sur vous, Benoît, sur moi ou sur Victor, dans 50 ou 60 ans, on trouvera peut-être des petits trucs. J'imagine, c'est mon flair d'artiste, de romancier. Mais donc Pierre de Coubertin, voilà, c'est un personnage un peu gris, je trouve, un peu bon. Alors que Spiridon, non seulement il y a pas mal de ressources malaises, puis il y a de l'amour aussi, parce qu'il y a une jeune paysanne grecque qui joue un rôle non seulement dans sa vie, mais dans sa victoire.
Philippe Jaénada, vos premiers livres sont des autofictions, vous vous passionnez hein, ensuite à raconter l'histoire des autres, l'histoire d'un braqueur magnifique, Sulac chez Julliard, puis celle de Pauline Dubuisson qui a donné La Petite Femelle en 2015, l'histoire de cette fille hein, qu'on accuse d'avoir tué son ex-petite amie. Les autres, c'est moins dangereux que l'autofiction pour trouver un sujet.
Oui, alors déjà, en fait, moi, j'ai tous mes premiers livres, sans fausse modestie, hein, j'ai pas d'imagination, j'ai jamais réussi à inventer quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on peut être tranquille, tout est vrai.
Oui, vous avez raconté votre femme, la naissance de votre fils.
J'ai tout épuisé, puis je me suis rendu compte au bout de 7 livres, j'ai écrit 7 livres, donc plus ou moins sur ma vie, dans l'ordre chronologique, hein, le jeune mec à Paris qui fait un peu la fête et qui cherche l'amour, celui qui rencontre l'amour, l'horreur de la vie conjugale, enfin bon bref. Et puis la boucle a été bouclée, maintenant j'ai une vie d'une platitude, d'une monotonie qui sont délicieuses pour moi mais consternantes pour les lecteurs si je m'en servais. Et je me suis demandé, je suis foutu, je ne peux rien inventer. Je n'ai plus rien à raconter à part la liste de courses de Franprix et les programmes télé le soir.
Mais alors vous mentez un petit peu parce que je crois que vous êtes tombé dans un incendie, vous et votre famille. Voilà. Et ça a été un sujet. Ça, voilà, ça a presque été une chance, même si vous avez peut-être failli perdre la vie.
Exactement. Et c'est d'ailleurs là que je me suis dit qu'il allait avoir un problème. C'est que j'ai été en panne complète depuis 4 ou 5 ans quand on a été victime de cet incendie gigantesque. Et le soir même de l'incendie, alors qu'on a vraiment, on est passé à un millimètre de la mort tous les trois, hein, je me suis dit, yes, j'ai quelque chose à raconter. Je me suis dit, s'il faut que j'attende des tremblements de terre, des tsunamis, des choses pour raconter, je suis mal barré.
Vous avez bu un coup pour fêter ça, hein, dans la foulée.
Ah oui, bah, dites donc, quand on sort de 9h dans les flammes, on boit une petite bière.
Finalement, c'est le destin que vous racontez, Philippe Jaénada, tout au long de votre œuvre, et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous êtes pris au jeu, ce que vous nous disiez tout à l'heure, à raconter ces épreuves sportives, cette première édition des Jeux Olympiques modernes, pas uniquement parce que vous vouliez, étant petit, être commentateur sportif.
J'aurais bien aimé être commentateur sportif. Et là, dans le livre, donc, quand je raconte le marathon, alors c'est par écrit, il n'y a pas les envolées lyriques d'un Roger Coudert, d'un Robert Chapat.
Sont vos héros?
Ah oui, bien sûr. Ma mère me disait que elle m'entendait tous les mercredis, j'ai dû avoir une enfance assez triste, j'étais enfermé dans ma chambre, mais elle m'entendait hurler, Eddy Merckx qui passe en tête. Enfin, je criais comme un fou avec mes petits cyclistes. Donc, ben là, ça y est, j'ai un peu réalisé ce rêve par écrit. Et puis, le destin, et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai plus rien eu à raconter sur ma vie, je me suis tout d'un coup rendu compte, comme si je me réveillais, qu'en fait, j'étais pas seul au monde, et qu'il y avait pas mal de vies, d'autres vies que la mienne, comme disait Emmanuel Carrère. Et c'est évidemment beaucoup mieux, parce que non seulement il y a beaucoup plus de... Enfin, moi, j'étais tout seul, et puis alors il y a des millions de gens dont les vies sont toutes intéressantes à raconter. Et puis, surtout, c'est plus intéressant pour moi. C'est-à-dire que ça me passionne plus d'écrire un livre sur Spiridon Louis, Pauline Dubuisson, Bruno Sulac, que de raconter la nuit ce que j'ai fait toute la journée. Quoi.
Et je crois que vous vous servez aussi de vos histoires pour vous réintégrer en autofiction dans les enquêtes que vous écrivez.
Ouais, alors c'est d'une part ça doit être un pli que j'ai pris, hein, à force de parler de moi, bah, voilà, malheureusement je continue un peu. D'autre part, ça sert quand même souvent, par exemple pour l'histoire de Pauline Dubuisson, qui est une histoire très sombre, très triste, très lourde, ça me sert à aérer un peu le livre et puis à permettre au lecteur de rentrer dedans plus facilement, parce que je pense qu'un gros bloc de pesanteur et d'obscurité qu'on jette dans les mains d'un lecteur, bon...
Ouais, en tout cas, là, il n'y a pas aucune pesanteur hein, dans ce livre Spiridon Superstar, édité dans la nouvelle collection Incipit des éditions Prisma. En gros, ça ressemble à du Philippe Jaénada. Merci d'être venu nous voir dans les matins d'été. Merci aussi à Victor de Quiver.